Je vais faire vraiment le tour du sujet, c'est-à-dire les sources d'énergie actuelles, la consommation actuelle, l'évolution pour les prochaines décennies et les choix qui nous sont offerts. Et comme je ne sais pas le faire dans une heure, j'ai divisé ça en 5 séances. Où vous serez, vous allez tout apprendre sur le nucléaire, le solaire, l'éolien, etc. Donc aujourd'hui c'est la première. Tout ça sera dans le programme et qui va sortir donc à la fin de cette semaine. Laissez-moi voir. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est la croissance de la population mondiale et la demande d'énergie. J'ai mis en citation une phrase de Jean-Paul II pour me rappeler de faire une petite précision. Quand on attaque des sujets comme ça, on se retrouve très rapidement en manque de courage, si vous voulez, parce qu'il y a des situations, il y a des données qui sont vraiment démoralisantes. Et donc, moi personnellement, j'ai fait un choix philosophique que je vous propose, c'est-à-dire, on ne peut pas résoudre d'un coup tous les problèmes du monde. Donc, on va quand même en parler. Et puis, pour ceux qui nous concernent, on va s'occuper des choses qui nous regarde directement en tant qu'Européens, en tant qu'habitants de la France, en tant que consommateurs. Et pour les restes, qui vivra verra. Donc, la population mondiale pose en soi-même un problème puisqu'elle est en augmentation exponentielle. Une augmentation exponentielle, il y a un vieux conte d'un sage qui avait demandé à un calife d'être rémunéré en prenant un échiquier et mettant 2 grains de blé sur la première case, 4 sur la deuxième, 8 sur la troisième, ainsi de suite. Et le sultan avait été tout content parce qu'il pensait s'en tirer à bon compte. Et seulement à la fin, à mi-chemin, il s'est rendu compte. Et en effet, que la chose n'était pas du tout comme il la voyait. Moi, je calculais et il faudrait la production de blé d'environ 1000 ans pour donner à ses savants la quantité de blé qu'il avait demandé. Aujourd'hui, nous sommes 6,5 milliards. Et l'augmentation n'est pas très marquée, et quand on la regarde comme ça, c'est 1,5% par année. Donc ça semblerait tout à fait vivable. En réalité, vous voyez, ça, si vous faites les calculs, ça fait 260 000 personnes par jour de plus. Si ces nouveaux habitants utilisaient ne serait-ce que l'énergie électrique qu'on utilise en Europe, c'est-à-dire 1000 watts, il faudrait une centrale nucléaire tous les 4 jours pour satisfaire ces messieurs. Sans parler du reste de l'énergie pour rouler, etc. Donc, selon le, je vais vous montrer une prévision issue de l'ONU, qui est quand même un peu optimiste. Ils ont dit, ils ont pensé, ça ne peut pas continuer comme ça, donc un jour ou l'autre, ça va s'étasser d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'en 2100, ils ont prévu 11,5 milliards au lieu peut-être de 20 milliards comme on aurait dû prévoir. Mais ce qui est sûr, c'est que on sera par exemple 8 milliards en 2025 ou 10 milliards en 2050. Et dans ce cas, il y aura 1 à 2 milliards de gens qui ne seront pas trop quoi manger. Voilà. La situation, la même situation en graphique, c'est à partir des années 1930, où on a appris à guérir les gens, si vous voulez, à combattre les épidémies, etc., et éviter les contagions. Et à partir de cette date, les choses se sont emballées. Voilà comment marchent les prévisions. Donc, un autre mot de mise en garde. Rien n'est faux comme les prévisions. En tout cas, dans le cas de société des hommes, ils ne prennent jamais. Pourquoi il a descendu, lui? Donc, vous voyez, on sait bien combien on est aujourd'hui, on sait bien combien on sera peut-être dans 20 ans, et puis les choses se deviennent un peu moins précises. Alors, ça, c'est la courbe des natalités qui est effectivement en diminution. C'est pas vrai? Qui est effectivement en diminution depuis les années 90. Et c'est ce qui fait. Cela correspond en réalité à un phénomène très simple. C'est-à-dire que les femmes des populations moins aisées commencent à faire un peu moins d'enfants. Et donc, on espère que ça continue avec le développement et que la natalité retombe à des niveaux acceptables. Ici, c'est le taux de croissance pour les différents pays. Tout en haut, en rouge, vous avez le monde entier. L'Asie, sans surprise, c'est un continent où la population est en croissance importante. L'Afrique, en bleu foncé aussi. Et puis l'Europe, vous voyez, on est à peu près stationnaire. Nous en parlerons dans un instant de ces différences. L'Amérique latine et les îles, ça monte quand même un peu. Et puis l'Amérique du Nord augmente, mais surtout à cause de l'immigration. Ici, c'est pas très important de rentrer dans ces détails, c'est juste pour vous montrer que si on prend l'Asie, en gros, on fait 2/3 de la population mondiale. Je vais introduire une classification que je vais garder dans la suite, c'est-à-dire, nous prenons les pays industrialisés. C'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Russie même, en tout cas la partie européenne de la Russie. Ces pays industrialisés totalisent à environ 20% de la population mondiale, donc un peu plus qu'un milliard que j'ai marqué là, mettons 1,5 milliard. Vous verrez que je joue avec les chiffres. C'est pas la peine d'aller jusqu'au dernier. À la dernière précision, parce que de toute façon, ce sont des phénomènes de masse. Nous avons des pays en voie de développement. Je pense notamment à l'Inde et à la Chine. Ce sont eux qui nous posent un problème aujourd'hui du point de vue de l'énergie. On ne voit pas pourquoi. Et puis, il y a tous les autres, l'Afrique, les îles perdues dans le Pacifique, etc., qui consomment très peu, qui augmentent beaucoup. Et qui constitue quand même une bonne moitié de la population mondiale. Vous voyez, j'ai marqué 2 milliards de personnes, ne savent même pas qu'est-ce que c'est que l'électricité. Les problèmes qui nous est posé à nous, c'est que les pays industrialisés avec 20% de la population mondiale ont consommé jusqu'ici la moitié de l'énergie mondiale. Donc, il est clair que s'il faut faire des économies ou s'il faut trouver des solutions, c'est à nous, tout d'abord, de le faire. D'abord, parce que nous sommes beaucoup plus avides que les autres, si vous voulez. Deuxièmement, parce que nous avons la technologie pour le faire. On ne va pas demander à un Indien ou même à un Chinois qui vient tout juste de sortir de l'indigence de faire des économies d'énergie. Ce serait pratiquement pas moral et pas possible. La distinction entre pays industrialisé, en développement, etc., je mets des majuscules là parce que vous trouverez pays en voie de développement abrégé avec PED. Donc c'est un sigle, vous le reconnaîtrez. On peut dire la natalité dans les pays industrialisés, c'est de l'ordre de 0,5%, donc largement en dessous de la moyenne. Dans les pays en voie de développement, c'est à peu près dans la moyenne, c'est-à-dire 1,5%. Et dans les pays sous-développés, c'est jusqu'à 3%. Or, pourquoi je disais que les pays en voie de développement nous posent problème? Parce que finalement, les Africains, même s'ils se multiplient, ben, ils consomment rien ou très peu du point de vue énergétique. Alors que les Chinois et les Indiens, comme ils commencent à s'industrialiser, ils veulent l'électricité, ils veulent les voitures, ils veulent construire des immeubles, etc. Et donc, d'un coup, la demande mondiale en énergie a fait un bond. Et ça, à mon avis, ça n'avait pas tellement été prévu par les gouvernements des pays industrialisés. Je quitte le sujet de la population et je mets un mot pour l'énergie, parce que quand on dit consommation d'énergie, un physicien, ça le dérange tout de suite. L'énergie ne se consomme pas dans le sens qu'elle ne disparaît pas. L'énergie peut uniquement se transformer d'une forme à l'autre. Je peux utiliser de l'énergie électrique pour produire du mouvement. Je peux utiliser de l'énergie thermique pour produire de l'électricité, mais rien ne se perd. C'est uniquement une transformation. Seulement, il y a un petit hic. Il y a des énergies qui sont plus aristocratiques, si on peut dire, par exemple l'énergie de mouvement ou l'énergie électrique, et puis il y a des énergies qui sont moins nobles, comme la chaleur. Je peux vous donner à peu près une idée, et vous savez qu'on dit que, vous avez peut-être entendu que l'entropie augmente toujours, c'est-à-dire quand on transforme une forme d'énergie dans une autre, en général on y perd. Mon interprétation de ce phénomène est que si vous avez un objet qui bouge, vous avez un ensemble de particules jusqu'au niveau atomique qui bougent toutes dans la même direction. Et de même, si vous avez un courant électrique, vous avez des électrons qui bougent tous d'une façon synchrone. Si vous avez de la chaleur, vous avez des molécules de gaz ou de vapeur ou de liquide qui bougent, mais bougent dans toutes les directions. Donc, pour convaincre, par exemple, une masse de vapeur de produire de l'énergie mécanique qui, elle, produira de l'électricité, il faut nécessairement y perdre. Parce qu'avant d'avoir pris toute cette masse de vapeur et de l'avoir convaincue de produire de l'électricité, on va dépenser de l'énergie. Bon, c'est une explication un peu cavalière, mais je peux trouver mieux. L'énergie, donc, en tant que paramètre physique, se mesure dans des unités internationales, etc., comme le joule, jadis la calorie, le kilowattheure que tout le monde connaît parce qu'il les paye à la fin du mois. Mais ce genre d'unité ne nous sert pas dans le contexte d'aujourd'hui parce qu'elles sont trop petites et puis elles ne donnent aucunement l'idée de ce qui se passe. Un autre mot, donc on va tout de suite arriver à choisir des unités plus adéquates. Un autre mot, quand on transforme de l'énergie, je dis on y perd, mais on peut être un peu plus précis quand même. On fait un rapport entre l'énergie qu'on obtient dans la forme que nous souhaitons et l'énergie qu'on a dépensée au départ. Et ce rapport est le rendement. Pour mieux comprendre, j'ai mentionné le rendement d'une centrale thermoélectrique. Et cette centrale thermoélectrique, elle peut être quelconque, c'est-à-dire elle peut marcher au gaz, elle peut marcher au charbon, elle peut marcher au pétrole, elle peut même marcher au nucléaire. Rien n'y fait, le rendement ne dépassera jamais un tiers. Donc ça veut dire que toute centrale pour la production d'énergie électrique, je ne parle pas des centrales hydroélectriques, hein, je parle des centrales thermiques, c'est-à-dire qui partent, qui utilisent de la chaleur, deux tiers de l'énergie dépensée est envoyée dans l'atmosphère ou dans des rivières sous forme de chaleur. On ne peut pas l'utiliser à moins d'habiter au centre-ville, ce qui n'est pas généralement le cas. Un moteur de voiture a un rendement de 20%. En réalité, quand vous roulez, votre rendement est de 1%. Mais ça, on y retournera quand on parlera des transports. Parce que 20%, c'est le rendement optimal. Donc, si vous faites des arrêts, vous répartez ces 10%. Ensuite, vous trimballez 100 kg sur une masse de 1000 kg de ferraille. Et donc, vous divisez encore par 10, vous arrivez à 1%. Le rendement animal, puisque jadis il y avait des bœufs et des ânes, est de 10%. Il n'y a que l'homme qui a un rendement de 20%. Je vous laisse faire des considérations philosophiques. Il y a d'autres formes de rendement dont on parlera quand on parlera des solaires et d'éoliennes, etc., qui n'est pas le rendement que je viens de mentionner. C'est un rendement lié à la nature intermittente de la source d'énergie. Par exemple, si j'ai une éolienne, bon, il faut qu'il y ait du vent, il ne faut pas qu'il y en ait trop peu, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il y ait des pannes ou de l'entretien. Donc, une éolienne qui est vendue comme développant 2 MW, en réalité, elle donnera à la fin de l'année 200 kW. Et ça, c'est uniquement dû à la aux conditions de l'environnement. À part l'énergie, on parle aussi de puissance. Donc la puissance, c'est l'énergie développée par unité de temps. C'est-à-dire que si je monte d'ici jusqu'à la Saoupe, si je monte lentement ou si je monte rapidement, je développe exactement la même quantité d'énergie. Mais la puissance que je mets en jeu est lié à la vitesse avec laquelle je monte. Donc, la puissance donne une idée de la vitesse à laquelle on consomme ou on produit de l'énergie, et elle est mesurée en watts. Donc, un watt, c'est un joule par seconde. Mais de nouveau, c'est une unité très petite, ce n'est pas celle qui nous intéresse. Vous verrez qu'au cours de notre discours, on parlera toujours... Bon, on parlera aussi de kilowatts, mais le plus souvent de mégawatts, de gigawatts et même de terawatts, mais plus rarement. Donc, il faut que vous vous familiarisez avec ces préfixes. Bon, les kilowatts, tout le monde le sait. Un kilogramme, c'est 1000 grammes. Les mégawatts, c'est 1 million de watts. M, le grand M, c'est 1 méga, donc. Et les gigawatts, c'est 1 milliard. J'ai porté dans le... passer un exemple. Si vous avez 1 million de pièces de 10 centimes et vous les alignez, vous allez d'ici jusqu'à la Ciotat. Si vous avez 1 milliard de pièces de 10 centimes, vous allez du pôle sud jusqu'au pôle nord. Donc, faut pas passer trop vite du million au milliard comme si rien n'était. Donc, nous passons maintenant au langage économique, si vous voulez. On quitte la signification scientifique d'énergie et des puissances. Donc, dans le langage courant, on parle de sources d'énergie, comme si l'énergie se générait toute seule. Donc, ce n'est pas le cas, on l'a bien compris, mais pour nous, c'est des sources d'énergie, c'est-à-dire, c'est des endroits où nous pouvons aller chercher l'énergie sous une forme quelconque, c'est-à-dire chimique, par exemple, dans le cas du pétrole, ou mécanique, dans le cas d'un barrage, et la transformer, cette énergie, dans une forme qui nous convienne mieux. On parle, par exemple, d'énergie fossile, on verra pourquoi. On parle d'énergie hydraulique, nucléaire, solaire, géothermique, etc. Selon la façon où on va pêcher de l'énergie qui puisse nous servir. Les énergies fossiles ont un caractère un peu spécial. Donc, c'est des énergies chimiques, hein, parce que le pétrole, le charbon, etc., sont des substances chimiques qu'on peut faire brûler, essentiellement. Ou alors, on peut faire de la pétrochimie avec. Et malheureusement, c'est des substances qui sont d'origine organique, c'est-à-dire de grandes quantités de déchets, de plantes et d'animaux, qui ont été mises dans un pressoir par les phénomènes géologiques et qui, après pression, température, etc., ont produit les substances qui nous servent beaucoup, comme le gaz, le charbon, etc. Et ces sources ne sont pas inépuisables, loin de là, on en parlera dans les détails. L'énergie hydraulique, elle est comme l'énergie solaire ou l'énergie géothermique, celles-ci sont des énergies inépuisables, parce qu'elles sont soit d'origine solaire. L'hydraulique, c'est de l'énergie solaire, hein, c'est l'énergie solaire qui fait vaporiser l'eau, qui produit la pluie, et puis cette pluie, elle tombe sur des montagnes en position un peu surélevée, elle peut être exploitée. Et l'énergie géothermique est liée à la chaleur interne de la Terre, donc qui n'est pas prête d'être épuisée non plus. Quant à l'énergie nucléaire, bon, c'est un cas à part, nous en parlerons. Quels sont les problèmes qui nous sont posés par les sources d'énergie? Bon, on l'a vu, la population mondiale augmente, mais la consommation d'énergie augmente encore plus vite. C'est-à-dire que si la population augmente de 1,5% par année, la consommation d'énergie, elle, augmente de 2,2% par année. Pour cause, on a dit que les Indiens et les Chinois sont en train de se convertir à une économie industrielle. Donc, automatiquement, si tous les nouveaux-nés en Asie restaient dans un état d'indigence, l'augmentation de consommation d'énergie ne serait pas plus rapide. Elle augmenterait quand même, mais ne serait pas plus rapide que l'augmentation de la population. Mais si dans cette population il y a des quantités importantes qui consomment tout à coup plus d'énergie, la consommation d'énergie augmente plus rapidement que la population. Il y a le problème des ressources non renouvelables, donc on va voir assez rapidement que ce sont essentiellement celles que nous utilisons. Et il y a le bien connu problème des émissions de CO2 qui augmente l'effet de serre et, de par là, la température moyenne sur la Terre. Et là, il y aura une séance à part, il y aura de longues discussions. Combien est-ce vrai, c'est pas vrai? Pour l'instant, nous allons dire que c'est vrai. Après, on verra comment. Le plus compliqué, c'est que la taille des problèmes et le temps de mise en œuvre des solutions sont énormes. Vous voyez, les gens qui nous gouvernent ont l'habitude, mais nous-mêmes, au fond, hein, nous avons l'habitude à raisonner sur 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est déjà être clairvoyant. Or, le problème d'énergie se règle sur une échelle de temps qui est de 20, 40, 60 ans. C'est-à-dire que si on décide aujourd'hui, tout à coup, par exemple, d'augmenter le nombre de centrales nucléaires, ben, elles ne seront pas en production avant 40 ans. Et ceci change la donne, c'est-à-dire nous-mêmes et nos gouvernants ne sommes pas habitués à raisonner dans ces termes, à long terme. J'ai mentionné aussi la compréhension du grand public. Ce n'est pas pour vous faire tort, disons, mais vous avez vu à la télé que la distinction entre une centrale de troisième génération, une centrale nucléaire de troisième génération et de quatrième génération, elle n'était claire à personne. Elle n'était claire même pas pour moi avant que je m'en occupe, si vous voulez. Donc il y a des choses qu'il faut savoir. Et je suis là pour vous les raconter. Nous venons au point clé C'est-à-dire, pour discuter de tout phénomène, comme en astronomie, il faut prendre des unités adéquates pour mesurer la distance entre la Terre et le Soleil ou entre les étoiles, pour la consommation énergétique, il nous faut des unités spécifiques. Et d'autre part, ce n'est pas moi qui les ai choisis, c'est ceux que vous rencontrez si vous allez lire n'importe quel bout de journal, etc. Donc, il vaut mieux s'y familiariser. Nous allons utiliser en large et en long la tonne équivalent pétrole. Ça, c'est relativement clair. C'est-à-dire, je prends une tonne de pétrole et je regarde qu'est-ce que je peux faire avec. Mais la tonne équivalent pétrole, je vais l'utiliser même si je mesure une quantité de gaz. C'est-à-dire, je dirais que j'utilise une quantité de gaz naturel équivalent à une tonne de pétrole. Une autre unité qu'on trouve aussi utilisée, c'est les kilowatts, les mégawatts, etc. Mais ce n'est plus dans le sens d'une puissance. Alors ça, c'est très équivoque, mais ce n'est pas moi qui l'a choisi. C'est-à-dire, on dit une centrale de 1 gigawatt. Donc, ça veut dire que cette centrale a une puissance de 1 gigawatt et à la fin de l'année, elle aura produit une quantité d'énergie égale à 1 gigawatt fois le nombre de secondes qu'il y a dans une année. Quand on dit, par exemple, que chaque Français utilise 1 kilowatt d'énergie électrique, ça veut dire que c'est comme si on avait un radiateur de 1000 watts allumé en permanence, tout le long de l'année. D'accord ? Et à ce moment-là, on utilise un terme qui est un terme de puissance, mais on sous-entend tout au long de l'année. Ceci dit, quand on y arrivera, et qu'on verra que chaque Français consomme non pas 1000 watts, mais en réalité 1300 watts d'énergie électrique, ce n'est pas vous ou moi qui utilisons toute cette puissance. Nous n'avons pas un radiateur allumé à la maison tout le temps, mais c'est l'éclairage public, les trains, l'industrie, etc. Évidemment, on prend la consommation globale, on la divise par le nombre d'habitants, et que ce soit un enfant ou un vieillard ou quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, c'est le jeu de moyenne. Dans ce sens, il y a une petite équivalence qui est importante, parce que vous trouverez les mêmes considérations, tantôt en tonne équivalent pétrole, tantôt en kilowatt. L'équivalence est une tonne équivalent pétrole équivaut à 1400 watts, c'est-à-dire 1,4 kilowatts, tout au long de l'année. Comment on établit cette équivalence? Certainement, on ne peut pas utiliser cette quantité d'énergie électrique pour produire une tonne de pétrole. Ni, d'ailleurs, on peut utiliser une tonne de pétrole pour produire cette énergie électrique-là, puisqu'on a vu qu'on y perd 2/3, de toute façon. Alors, la façon d'établir l'équivalence, c'est de prendre une grosse quantité d'eau et puis on la chauffe. On peut la chauffer en brûlant une tonne de pétrole ou on peut la chauffer en mettant dedans une résistance électrique de 1,4 kW pendant une année. Si on obtient à la fin de l'année la même température, c'est que les deux quantités sont équivalentes. Et pour vous, alors ça, n'y vous perdez pas, mais c'est que moi, dans les mêmes, je vous donne un exemple, dans les mêmes articles de journal ou dans la même discussion à la radio, il y avait des gens qui discutaient sérieusement de l'isolation thermique, c'est-à-dire de la consommation en énergie dite des habitations, en parlant tantôt en litres de fuel, tantôt en watts par mètre carré, tantôt un mégajoule par mètre carré par an, et heureux qu'il comprend quelque chose. Donc, c'est pour vous dire que le jeu des unités est quand même embêtant. Là, c'est la consommation courante d'un logis, évidemment peut-être pas un logis à Cassis parce qu'il fait chaud, mais disons à une moyenne latitude. Et il y a des discussions pour faire des normes au niveau européen pour réduire de 2 ou 3 fois cette consommation. Si vous voulez, vite vous retrouvez, moi habitant en Genève, je m'y retrouve, c'est-à-dire que 12 litres de fuel au mètre carré, ça veut dire que sur un an, je consomme quelque chose comme 2 tonnes de fuel. Et ça colle à peu près même avec les prix. Ou alors, vous prenez les watts ou les kilowattheures et vous regardez votre facture à la fin du mois ou de l'année, vous vous y retrouvez. Ça, c'est encore une table d'équivalence, mais qui ne doit pas prendre trop votre attention, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas la retenir. Mais c'est pour vous montrer qu'avec une tonne équivalent pétrole, on mesure tout, que ce soit du charbon, du bois sec, de l'uranium, tout ce qu'on veut. Les Américains, eux, utilisent beaucoup les millions de barils de pétrole. Or, les barils de pétrole, pour l'histoire, c'est M. Rockefeller qui, au Texas, quand ils ont commencé à tirer le pétrole, il a trouvé que les paysans utilisaient pour stocker le pétrole des barriques, des harengs vides. Et ces barriques faisaient 159 litres. Donc ça, c'est les barils qu'on utilise encore de nos jours. Et M. Rockefeller, entre autres, a fait sa fortune, non pas en essayant d'extraire du pétrole, mais en essayant de les transporter et les vendre. Et de les transporter et les vendre avec une assurance sur la qualité, si bien qu'il a fondé une compagnie qui s'appelait Standard Oil. Ça veut dire qu'il vendait toujours la même huile. Et puis Standard Oil, quand il a été attaqué pour monopole, c'est devenu ESSO. Maintenant, c'est Exxon, c'est toujours la même. À la dernière ligne, on va commencer à parler de production de CO2, c'est-à-dire, si on brûle une tonne de pétrole, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend du carbone. On produit aussi de l'eau parce qu'il y a de l'hydrogène dedans. Disons qu'on brûle une tonne de carbone, de charbon. Le carbone, lui, en tant que élément chimique, pèse 12 petites boules dedans. Et l'oxygène, lui, pèse 16. Donc, si vous considérez la molécule de CO2 comme elle sort de votre cheminée, vous voyez que vous avez à peu près le triple de poids par rapport au charbon que vous avez brûlé. Je répète, vous mettez, laissons tomber la tonne, vous mettez 1 kilo de charbon dans votre four, dans votre cuisinière. Vous le faites brûler. Ce charbon se combine avec de l'oxygène, c'est ça la combustion. Et le poids qui sort de votre cheminée est 3,5 fois le kilo de charbon que vous avez brûlé. Ceci ne nous intéresse guère, c'est que quand on parlera des émissions de CO2, tantôt c'est exprimé en tonnes équivalent carbone et tantôt c'est exprimé en tonnes de CO2. Et c'est pas la même chose. Alors, nous y voilà à quelque chose de plus concret. Juste ici, nous avons parlé d'unité, de ceci, de cela. Ça, c'est les chiffres à retenir. Donc, la consommation actuelle, en réalité actuelle, c'est 2005. D'énergie mondiale, c'est 10,5 milliards de tonnes équivalent pétrole. Gigatep. Si je veux être court et en clair, c'est 10,5 milliards de tonnes équivalent pétrole. Ce qui nous donne une consommation par an et par personne d'1,6 TEP, mais ça ne nous dit rien du tout parce que vous connaissez le jeu de moyenne. Il y en a qui consomment, qui prennent tout, il y en a à qui il ne reste pas grand chose. Mais c'est vraiment vicieux. Donc, nous allons répartir cette quantité de 10,5 milliards de tonnes de pétrole par source, c'est-à-dire d'où vient cette énergie. Alors on s'aperçoit très vite, là, si on, quand on veut faire bien, on met des chiffres détaillés. Mais en réalité, si vous voulez vous en souvenir, vous faites 40% pétrole, 20% gaz, 20% charbon, pour commencer. Je répète, 40% pétrole, 20% de gaz naturel et 20% de charbon. Et la partie du pétrole est en augmentation. Ce qui nous donne 80, ça veut dire que nous dépendons aujourd'hui à 80% des sources d'énergie fossiles. Et ça vous donne déjà une idée du problème. C'est-à-dire que le jour où il n'y en aura plus, où il y en aura moins, on se retrouve mal barré. Ensuite, il y a, où je dis autres renouvelables, en réalité, 10% c'est du bois. Parce qu'il y a beaucoup de gens au monde qui encore se chauffent et cuisinent avec le bois. Donc nous avons 10% de bois, il y a quelques pourcents d'hydraulique, et le reste c'est du nucléaire. Donc hydraulique plus nucléaire, ensemble, ça fait environ 10%. Et les bois fait 10%, et les renouvelables font même pas 1%. Ceci, c'est la même quantité d'énergie répartie cette fois par pays. Je vais États-Unis, Canada, même la Finlande, mais on peut admettre qu'ils ont très froid, consomment à peu près presque le double que tous les autres. Donc ils sont entre 8 et 10 tonnes équivalent pétrole par habitant par an. Nous, les Européens, et y compris les Français, les Italiens, etc., nous consommons 4 tonnes et demie, si on veut faire une chose en gros. Hein. 4 tonnes et demie. Et de ces 4 tonnes et demie, 1000 watts sont d'électricité. C'est-à-dire, les 4 tonnes et demie, c'est notre paquet énergétique, mais une partie de cette énergie, nous la consommons sous forme d'électricité, et c'est les fameux 1000 watts. En France, 1000 watts par personne par an. Alors, vous voyez que la Chine et l'Inde sont plutôt du côté de 1 TEP par personne par an. Donc, ils sont bien, bien encore loin de la consommation occidentale. Mais ça, c'est uniquement à cause de l'étendue du territoire et du fait que les régions ne sont pas également développées. Ici, on a l'augmentation de la consommation d'énergie en rouge. En vert, vous avez à peu près l'augmentation des émissions de CO2. Non pas des émissions du poids des charbons qui devient 3,5 fois son poids en CO2. Donc on en reparlera de toute façon. Ça donne aussi de l'eau à côté. L'eau ne nous dérange pas, donc on n'en parle pas. Alors voilà, le problème commence. On a dit qu'aujourd'hui, nous consommons 10,5 gigatep. Et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Si les choses continuent comme elles sont, en 2050, on consommera 3 fois. On consommera 30 milliards de tonnes équivalent pétrole par an. C'est la courbe bleue que vous voyez tout en haut marquée A. Et vous voyez bien que cette courbe prolonge la tendance actuelle. Si on essaye de faire quelque chose, on va plutôt consommer 20 gigatep par an. C'est la courbe rouge ou brun. Et c'est peut-être la plus vraisemblable. Mais si on fait beaucoup de choses quand même, non, si on ne fait rien. Et si on est vraiment de grands performants, de grands performeurs, si on est exceptionnel, alors on montera à 15 gigatep par an. C'est-à-dire que on ira à 1,5 fois la consommation actuelle. Donc, dans le meilleur des cas, c'est 1,5 fois. Dans un cas déjà pas trop mauvais, c'est le double. Et si on ne fait rien, c'est le triple. Et en bas, vous avez en brun la courbe de production d'énergie, toutes sources confondues, mais essentiellement, si vous voulez, les énergies fossiles, d'origine fossile. Et vous voyez que, alors que la consommation en énergie en bleu clair augmente sans cesse, la production d'énergie, elle, les sources d'énergie, ne peuvent pas augmenter sans cesse, et même à partir d'un certain moment, elles vont diminuer. Ce qui veut dire qu'à partir, disons, moi, si je regarde là, je dirais en gros de 2025-2030, la production de charbon, de pétrole, de gaz, ne répondront plus à la demande mondiale. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Qui le sait? On peut se disputer le prix du pétrole à coup de bombe. Mais en tout cas, quelque chose va se passer, parce que les gens vont se disputer les sources d'énergie. Ceci, sous un autre aspect, c'est ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire, on a un verre à notre consommation actuelle, bon, on dit dans l'an 2000, et puis il y a les trois cas, donc le doublement ou le triplement de la consommation d'énergie, et là, ça montre uniquement par continent où l'augmentation de la demande va être la plus importante. Et c'est sans surprise la Chine, peut-être un peu la Russie. Alors là, on a un graphique qui pour moi est très intéressant. Donc, vous avez les années de 2000 à 2100, et vous avez des prévisions, c'est pas un graphique fait par des écologistes, hein. C'est un graphique fait par les pétroliers américains. Donc, c'est déjà moins tendancieux, dans le sens qu'eux, ils tendent à être optimistes pour leurs produits. Donc ça, c'est le pétrole en vert. Vous voyez, un pic de production vers l'année, je vois, on verra, 2030. Et sur cette partie verte, il y a une partie à peu près brune, qui est le pétrole non conventionnel. C'est-à-dire, on va chercher le pétrole, là, on ne l'a pas cherché jusqu'ici, dans les grandes profondeurs, océaniques, ou alors des gisements de tourbe au Canada. En somme, on va racler le fond de la marmite. Mais même en faisant ça, vous voyez que le pétrole, il est en diminution. La même chose, avec un tout petit décalage, si jamais, va se passer par le gaz naturel. Et pour cause, parce que la production de gaz naturel et de pétrole vont de pair. Ensuite, il y a le charbon. Alors, arrivé au charbon, ces graphiques commencent à être trompeurs, parce que il semblerait que, vous voyez, en réalité, la production du charbon, c'est-à-dire cette hauteur-là, va augmenter tout le temps. D'ici à 2100, elle va augmenter tout le temps. Mais comme cette partie, elle est couchée sur un mamelon, il semblerait que la production du charbon décline. Pas du tout. La production du charbon aujourd'hui est donnée par cette distance-là, et en 2100, elle sera triplée, par exemple. 1, 2, 3. Le nucléaire, où on en parlera en long et en large, le nucléaire va reprendre d'une façon ou d'une autre, pour la simple raison qu'on ne peut pas s'en passer. Et après, on verra si on est capable de le faire de la bonne façon ou non. L'hydroélectrique, il porte dans ces petites bandes bleues toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire c'est la source d'énergie idéale, mais malheureusement, dans les pays développés, on a déjà utilisé à peu près tout ce qu'on pouvait utiliser. Donc on ne peut pas, par exemple, en Europe, doubler l'hydroélectrique. Il n'y a pas suffisamment de barrages possibles. Ensuite, on a fait une prévision très optimiste sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire, le vent, le soleil, le vent et la géothermie. Mais cette prévision, alors, elle est aussi vicieuse, parce que on a pris juste ce qu'il fallait pour garder l'ensemble sur une pente acceptable. pour l'instant, je dis pas que ce soit pas possible. Je dis uniquement qu'on n'est pas du tout parti dans cette direction-là et de loin. Donc, il y a des défis qui se posent à nous, occidentaux. Il est impératif de réduire la consommation d'abord. Jusqu'ici, on n'en parle pas du tout. Hein. C'est une course en avant. On dit on va faire la fusion nucléaire, on dit on va faire de nouvelles centrales nucléaires, on dit on va trouver du nouveau pétrole, etc. Mais on ne parle jamais, jamais de réduire la consommation. Alors que c'est la première chose à faire pour la simple et bonne raison que c'est faisable tout de suite déjà avec les moyens que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, on n'a pas de baguette magique, mais théoriquement, techniquement, il est possible de diviser par deux, par exemple, notre consommation énergétique. Si vous n'y croyez pas, je vous dirais que dans les années 70, on consommait la moitié. Et dans les années 60, on consommait un tiers. Et on n'était pas plus malheureux que maintenant, finalement. Donc, il est possible d'économiser, et nous en ferons tout un discours développé. Si on économisait, on aurait différents avantages. D'abord, on prolonge la vie des réserves énergétiques. Ça nous donne un peu plus de temps pour parer au pire, parce que, comme je vous ai dit, faire face à une pénurie de pétrole en 2020-2030, c'est trop près, c'est trop tôt. On ne sait pas quoi faire encore d'autre. Donc, il faut qu'on prolonge les sources actuelles. Et il en va aussi de la paix dans le monde. Et c'est pas des blagues, c'est vrai. Il y a une autre raison qui est beaucoup mise en évidence tous les jours, etc. C'est les émissions de CO2 qui risquent de nous provoquer des autres dérangements que le manque d'énergie, c'est-à-dire une augmentation de température, sécheresse, fonte des glaces, augmentation du niveau de la mer, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'on dit un peu moins, c'est que une augmentation importante de la température de la Terre peut-être peut échapper à tout contrôle. C'est-à-dire, ce n'est pas, si je double les émissions de CO2, on peut dire que la température va augmenter de 2 degrés. Si je les triple, on peut dire que la température va augmenter de 6 degrés. Mais en réalité, il y a un seuil, il y a un point que personne ne connaît, au-delà duquel les choses s'emballent et s'en vont à leur compte, si vous voulez. Et ceux d'entre vous qui étaient présents quand je parlais des planètes, bon, nous avons une planète sœur qui est Vénus, qui a la même taille de la Terre, qui n'est pas très loin de chez nous, à la même distance du Soleil, etc. Mais c'est une planète où il y a des 150 degrés, il n'y a plus d'oxygène, c'est tout du soufre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un effet de serre sauvage, si vous voulez. Il a pris les contrôles et ça a bouleversé le climat de la planète. Comme je le disais, c'est aux pays développés qui revient de réduire leur consommation, parce que d'abord nous sommes ceux qui consomment le plus, vouloir ou pas vouloir. On sait comment faire si on veut consommer moins. En revanche, on ne peut pas demander de faire des économies aux pays plus pauvres, même s'ils sont en développement, si nous ne le faisons pas d'abord nous-mêmes. Et ensuite, je pense que, comme quand vous tombez en misère, bon, c'est les plus riches qui souffrent le plus. Si un pauvre devient pauvre, bon, il ne sera pas plus pauvre qu'avant. Mais si un très riche devient très pauvre, ben, il va souffrir. Nous parlons un instant de la France. J'ai déjà mentionné 4 tonnes et demi d'équivalent pétrole par habitant et par an. Électricité, je dis 1000 watts parce que ça se retient mieux. On peut dire 1200 watts, je ne change pas beaucoup. C'est une partie importante, donc c'est une partie plus importante que dans d'autres pays, on verra pourquoi. converti en watts, la fameuse équivalence 1 TEP égale 1.4 kW, vous trouverez aussi la consommation par habitant en France mentionnée comme 6 kW, 6 kW et demi par habitant et par an. Donc c'est le petit cadre en bas à gauche. C'est la même chose. Hein. On peut dire 4 tonnes et demi de pétrole, on peut dire 6300 watts tout le temps. La répartition n'est pas très différente de la répartition mondiale qu'on a vue, sauf pour le nucléaire. Alors, la France est une exception au monde, parce qu'en France, il y a une soixantaine de réacteurs nucléaires qui produisent la plus grande partie de l'électricité, disons 80% pour donner une idée. Et ceci n'est pas le cas dans aucun autre pays. Par exemple, les États-Unis ont beaucoup plus de réacteurs que la France, ils en ont environ 200, mais ils ne produisent que 10 ou 15% de leur électricité. Donc, dans ce sens, la France est un cas unique. Ce qui donne des problèmes d'interprétation, là, je vous embête un peu parce que c'est subtil. Vous voyez, le bleu clair, c'est la partie du nucléaire. Or, vous avez deux graphiques totalement différents, où dans un cas, la partie du nucléaire dépasse 40% et dans l'autre, est d'environ 20%. Quelle est la différence? Dans un cas en haut, on a pris l'énergie importée, disons, par les pays, c'est-à-dire l'énergie brute. Et en bas, on a pris l'énergie qui arrive aux citoyens. Donc, si on prend le nucléaire, on consomme une certaine quantité d'uranium, mais aux consommateurs, il n'y en a que 30% qui arrivent sous forme d'électricité. Ce qui fait deux graphiques totalement différents qui peuvent désorienter la personne qui voudrait une fois plonger un peu dans les détails de la consommation. Si vous ne vous souciez pas des détails, c'est pas si grave. Mais il y a quand même une chose importante, c'est-à-dire que si on produisait, comme en Italie, cette électricité en brûlant du gaz, en Italie on a viré les centrales nucléaires, on a négligé un peu aussi les centrales hydroélectriques, et on prend le gaz de la Libye, parce qu'on a de très bons rapports avec Kadhafi. Donc, pour avoir une certaine quantité d'électricité, on brûle trois fois plus de gaz. Parce que les centrales nucléaires ont été remplacées par des centrales thermoélectriques qui marchent au gaz naturel. Ici, c'est un graphique du ministère de l'Intérieur qui vous montre la même chose sous une autre façon. La partie en bleu clair, c'est le nucléaire. Alors, vous voyez, là, à gauche, c'est laissez tomber les chiffres, hein, n'ont aucune signification. À gauche, c'est la quantité d'énergie nucléaire qui rentre sous forme sous forme d'uranium, et à droite, l'électricité, c'est ce qui sort. Et le reste, la partie qui monte en ascenseur, c'est la chaleur déperdue. Alors que, une fois qu'on a dépensé tout ceci pour faire de l'électricité, les gaz naturels ou le pétrole, bon, tant bien que mal, ils arrivent au distributeur, ils arrivent dans les maisons, il n'y a pas la même... Il y a aussi des petites pertes, mais il n'y a pas la même déperdition. Pour nous faire la main un peu avec nos unités d'énergie et les rendements, etc., on va prendre l'exemple d'une centrale nucléaire, puisqu'en France, on est bourré de centrales nucléaires. Donc, comme je dis, il y en a 59. La puissance moyenne, c'est 1 gigawatt. Et donc, on peut dire qu'elles produisent 60 gigawatts électriques par an. Vous voyez la petite « et », c'est important. Je parle maintenant de gigawatts électriques, c'est-à-dire c'est la partie d'électricité qui arrive au consommateur. Si j'avais compté des gigawatts thermiques, ce serait trois fois autant. Et on arrive à 78% de l'électricité. Voilà notre centrale. Donc, une centrale nucléaire, c'est un four. C'est un four pour chauffer de l'eau. C'est un gros chauffe-eau. Les corps chauffants, c'est les réacteurs nucléaires. C'est-à-dire, c'est un gros cylindre dans lequel l'uranium 235 se divise en des composants plus petits en développant de l'énergie. Dans ce noyau, il y a de l'eau qui circule et qui le refroidit, donc heureusement. Cette eau est pressurisée à 350 degrés et elle a un circuit fermé, c'est la partie en rouge. Cette température est passée à un autre circuit, toujours eau pressurisée, toujours 350 degrés, mais qui cette fois sort du réacteur, alors que l'eau de refroidissement, elle ne sort pas du réacteur. Cette eau se transforme en vapeur dans un détendeur, actionne une turbine qui, elle, actionne un générateur électrique qui amène l'électricité aux utilisateurs moyennant une perte électrique quand même de 10%. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre des centrales nucléaires, vraiment on pourrait les mettre en Afrique, mais disons pour amener l'électricité jusqu'ici, ce serait un problème. Pour faire un gigawatt électrique, vous voyez, ce qui va aux utilisateurs, on dépense 3 gigawatts thermiques. Ça, c'est le rendement d'un processus de génération d'électricité à partir de la chaleur. On n'y peut rien. Et cette chaleur, donc, ça veut dire qu'on a 2 gigawatts de chaleur à jeter. Donc, ça se fait de deux façons différentes, c'est-à-dire soit vous avez des rivières à côté et vous chauffez l'eau de la rivière en prenant beaucoup parce qu'il y a une limite d'1 degré, 1 degré et demi, enfin, on ne veut pas tuer le poisson. Et sinon, vous avez ce gros cylindre qui fume, c'est des tours de refroidissement, c'est-à-dire vous faites couler de l'eau chaude dans un cylindre en soufflant avec des gros ventilateurs, en provoquant de l'évaporation, donc, qui donne cette fumée qui en réalité n'est pas empoisonnante, c'est de la vapeur d'eau, et qui donne en sortie de l'eau refroidie. Il y a des centrales qui utilisent une façon ou l'autre, il y en a qui utilisent les deux en même temps. Ceci, vous l'avez déjà vu si vous avez assisté à la conférence sur ITER. Qu'est-ce qu'il faut pour produire un gigawatt électrique, c'est-à-dire pour avoir la même chose qu'avec une centrale nucléaire? Mais déjà, pour les centrales nucléaires, il faut 120 tonnes d'uranium naturel. On en parlera dans un instant. Ou alors, il faut 2 700 000 tonnes de charbon. Ou alors, il faut 2 millions de tonnes de pétrole. Là, vous voyez que le charbon est un peu moins efficace du point de vue chauffage. C'est-à-dire, regardez la quantité de camions. Ou alors, 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel, etc. Ou 5 000 éoliennes. Par exemple, vous voudriez alimenter Marseille en électricité. Marseille, 2 millions d'utilisateurs. 2 millions fois 1 kilowatt chacun, ça fait 2 gigawatts. 2 gigawatts, ça fait 2 centrales électriques. Ou alors, ça fait 10 000 éoliennes. Et encore des éoliennes implantées dans une région comme les côtes de la mer du Nord, où il souffle beaucoup. Parce que les éoliennes implantées ici, ça ne sert à pas grand-chose. On en parlera des éoliennes. Planter 5 ou 6 éoliennes, ou 10 même, ou 20, par ici, par là, ça ne sert à rien. Ça vous alimente un village. Parlons maintenant, la petite note en bas, mais on y reviendra quand on parlera du nucléaire. On parle d'uranium naturel, c'est-à-dire de l'uranium qui contient 97,3% d'uranium 238, qui lui n'est pas combustible du tout. Et dans cet uranium naturel, il y a 0,7% d'uranium 235 qui lui est combustible. Maintenant, pour le mettre dans une centrale nucléaire, avec 0,7%, la réaction ne démarre pas. Donc il faut enrichir cet uranium à jusqu'à qu'il y ait 3,5% de notre combustible, c'est-à-dire l'uranium de 235. Et pour cela faire, on transforme les 120 tonnes d'uranium de départ en 22 tonnes d'uranium enrichi. Malheureusement, qui sait faire de l'uranium enrichi, c'est aussi faire des bombes. D'où toute la polémique maintenant avec l'Iran, etc. etc. Les 22 tonnes d'uranium enrichi sont la charge d'un réacteur nucléaire d'un gigawatt qui dure qui alimente le réacteur pendant 20 mois. À la fin de ces 20 mois, il faut le sortir, ce combustible. Il ne peut plus maintenir la réaction. Alors, là, il y a une chose bizarre, c'est-à-dire il y a deux pays, la France et le Japon, qui prennent le combustible qui sort, qui contient encore de parties utiles et qui font un retraitement pour en sortir d'abord les déchets radioactifs dangereux, deuxièmement, la partie de combustible qu'on peut encore utiliser dans une nouvelle charge. Et tous les autres pays, on verra quand on parlera du stockage de l'uranium aux États-Unis, tous les autres pays, ils gardent les 22 tonnes et ils ne savent plus où les poser. Ici, pour le folklore, j'ai mentionné les coûts du kilowatt-heure électrique suivant les différentes installations. Donc, sans surprise, l'hydroélectrique est de loin le moins cher, parce qu'une fois qu'on a installé la centrale, ça tourne tout seul. Le nucléaire, il est à l'apparence très très bon marché, mais on ne sait pas si tous les coûts sont compris, parce que à la différence des autres installations, il y a le problème des déchets qui n'est pas pris en compte là-dedans. Ensuite vient le gaz naturel, l'éolien et le solaire. Vous voyez, le problème du solaire, c'est un problème de prix, pour l'instant. Voilà. Ceci, pour terminer, ça vous donne... C'est pas vraiment dans le sujet de la population, mais c'est la liste de réacteurs nucléaires dans les différents pays, c'est-à-dire, en réalité, dans la deuxième colonne, à côté du nom du pays, vous avez la puissance produite, gigawatt électrique. Et en sachant qu'une centrale produit 1 gigawatt, vous avez tout de suite le nombre de centrales.